Bonjour à tous. C'est le moment d'attaquer la deuxième mi-temps de notre culte. Nous avons chanté plusieurs chants ce matin. Cette semaine, il y avait un chant qui me trottait dans la tête. Pas un chant qu'on a chanté ce matin, pas un chant qu'on risque de chanter à l'église. On se souviendra de ceux qui commettent un crime, un jour, de tous ces chasseurs de primes, et puis d'oublier la vie d'un homme extraordinaire. C'est le refrain d'une chanson que j'aime particulièrement, « Un homme extraordinaire ». Cette chanson dit que si on se souvient naturellement des personnes ayant fait un jour les gros titres des journaux, on oublie facilement ceux qui, dans l'ombre, ont influencé notre vie. Et aujourd'hui, je vous invite à la rencontre d'un homme ordinaire, un prophète discret, Malachie. Malachie, c'est un livre qui se trouve dans la Bible tout à la fin de l'Ancien Testament. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu. Et nous y lirons au chapitre 3, les versets 6 à 12. Malachie, chapitre 3, les versets 6 à 12. Et je vous invite à vous lever en signe de respect pour la parole de Dieu. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir ? Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant vous me volez. Et puis vous me demandez, en quoi avons-nous donc volé ? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors dans un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous pouvez vous asseoir. Nous le disions, Malachie est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'il est placé dans l'ordre des livres de la tradition grecque et ainsi aussi dans la plupart de nos Bibles. C'est aussi un prophète mystérieux. On ne connaît pas grand-chose de lui. On ne connaît ni son ascendance, ni le lieu d'où il vient. L'ouverture du livre indique simplement proclamation, parole que l'Éternel a adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. On ne connaît donc de lui que son nom et le fait qu'il parle au nom du Seigneur. Je trouve intéressant de voir que Dieu parle par la bouche de serviteurs anonymes. Il utilise aussi des gens ordinaires, des gens menant une vie normale et à qui il donne un message à délivrer en son nom. Dans le cas de Malachie, ses auditeurs ont su reconnaître la voix de Dieu, puisque son message fait partie du canon biblique. Cela nous pose aussi la question à nous, savons-nous, à notre échelle, reconnaître Dieu quand il parle à travers nos frères et sœurs? À la lecture de son livre, on comprend que Malachie est un enfant de l'époque perse. Vous vous souvenez peut-être, le peuple d'Israël a été déporté à Babylone. Puis, lorsque Babylone a à son tour été conquise par les Perses, les Juifs ont eu le droit de retourner chez eux et de reconstruire la ville de Jérusalem et le temple. Le livre de Néhémie, que vous avez peut-être lu si vous participez à un groupe de maison, se situe à la même période. Au moment où Malachie intervient, le temple a certainement déjà été reconstruit. Mais Néhémie n'est certainement pas venu pour aider à la reconstruction de la ville, pas encore. Il se place entre ces deux événements. Et c'est une période difficile. Après l'enthousiasme du retour, les Israélites sont confrontés aux difficultés de la réalité. Tout ne se passe pas comme prévu. La reconstruction n'est pas facile. Et du coup, le moral chute et les bonnes résolutions avec. La relation à Dieu se distend. Il est nécessaire qu'un prophète vienne et les rappelle à l'ordre. Le message de Malachie est une suite de 6 controverses, des discussions où Dieu déploie ses arguments sur un sujet. Et ces controverses ont toutes le même plan. Tout d'abord, Dieu y rappelle un trait de sa nature. Ensuite, le peuple exprime ses questions. Puis Dieu répond à ses questions avec, à chaque fois, des actions concrètes que le peuple doit mettre en place. Malachie est donc un livre qui aborde des points concrets de la vie du croyant. Et dans chacun d'entre eux, Dieu y glisse un encouragement, un point positif et fondamental à apprendre sur lui. À ce peuple déboussolé, sans repère, Dieu rappelle qui il est. Il veut à la fois le stimuler, mais aussi l'encourager. Dans le texte que nous venons de lire, Dieu rappelle à son peuple qu'il ne change pas. « Je n'ai pas changé », dit-il au verset 6. Dieu rappelle ainsi qu'il est fidèle. Il protège son peuple à travers ses mésaventures, les déportations. Ce peuple, petit et fragile, n'a pas été exterminé, malgré les tempêtes qu'il a traversées. D'autres peuples ont disparu pour moins que ça. Mais Dieu leur rappelle qu'ils restent les fils de Jacob, c'est-à-dire les fils d'Israël, le peuple qu'il s'est choisi et qu'il continuera de protéger. Si lui n'a pas changé, le problème vient de ce que eux, les Israélites, se sont éloignés. « Revenez à moi », invite-t-il au verset 7. Cette invitation entraîne la question de l'homme. Comment devons-nous revenir? On a l'impression, à l'entendre, que l'homme n'a pas conscience de s'être éloigné de Dieu. Alors Dieu précise, « Vous me volez », au verset 8. Mais l'homme ne comprend pas mieux, en quoi t'avons-nous volé? En effet, comment voler Dieu? Créateur, il possède tout. Comment pouvons-nous le voler? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Dieu accuse son peuple de le voler lorsqu'il ne lui donne pas les montants d'argent prescrit par la loi. En fait, Dieu reproche à son peuple de se contenter de respecter superficiellement quelques exigences de la loi, alors qu'il attend qu'ils s'y soumettent intégralement. Eux laissent de côté les exigences les plus coûteuses de la loi de Moïse, celles qui demandent un engagement personnel. Mais suivre Dieu implique toutes les facettes de notre vie, et le côté matériel en fait partie. Dieu demande dans sa loi qu'il soit donné la dîme, c'est-à-dire le dixième de toute production animale et végétale, sur les petits comme sur les hauts revenus. Cette dîme sert pour le paiement des Lévites, les membres du peuple chargés de faire fonctionner le temple. Cette dîme, c'est un minimum. En plus de cette dîme obligatoire, les croyants sont encouragés à faire des offrandes volontaires, sans contrainte, selon la capacité de chacun. Ces offrandes volontaires ont toujours existé, même avant la loi. On les retrouve, par exemple, dans la vie d'Abraham. Mais le compte n'y est pas. Et les peuples et les prêtres sont contraints de travailler pour subvenir à leurs besoins, délaissant le service au temple. Alors Dieu rappelle à l'ordre. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Mais il a sorti ce rappel à l'ordre d'une merveilleuse promesse en forme de défi. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Les écluses, vous en avez peut-être vu sur nos rivières, ce sont des grandes portes capables de retenir ou de laisser aller l'eau. Ici, elles évoquent bien sûr l'eau qui vient du ciel, la pluie nécessaire aux bonnes récoltes que Dieu promet. Dieu rappelle à son peuple qu'il ne contrôle pas grand-chose. Pour vivre, pour produire leur nourriture, ils ont besoin de la pluie qu'ils ne maîtrisent pas. De même, malgré tous leurs efforts, ils restent vulnérables aux nuisibles tels que les insectes qui peuvent dévorer les cultures. Et Dieu les promet de les garder contre ce fléau. « Je détruirai l'insecte qui dévore », dit-il au verset 11. Mais ce que Dieu promet en réalité va plus loin que la protection contre les insectes ou que la pluie. Ces écluses évoquent l'abondance. Ce ne sont pas trois gouttes de pluie qui vont tomber. Ce n'est pas une petite bénédiction que Dieu réserve à ceux qui se confient en lui. C'est la surabondance. Elle est là. Retenue derrière des écluses qui n'attendent que d'être ouvertes pour pouvoir libérer la bénédiction et que celle-ci se répande. Ici, Dieu dévoile sa personnalité profonde. Avec lui, si vous me permettez l'expression, c'est un peu donnant-donnant, mais un donnant-donnant un peu particulier. En effet, c'est lui qui donne le premier. Envers qui il s'est engagé, ceux qu'il a choisis, eh bien, il leur reste fidèle, même si eux s'écartent. Et à ceux qui sont prêts à répondre à son invitation et à suivre ses commandements, il donne avec surabondance. C'est un peu comme si Dieu disait à son peuple, vous roulez avec le frein à main. Vous pensez gagner en réduisant la dîme, mais en fait, vous vous privez de la vraie richesse et des vraies bénédictions. Et ces bénédictions seront visibles au point que toutes les nations vous diront bienheureux. Au verset 12. Aussi les invite-t-il, Revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous. Abandonnez-vous complètement à moi, et vous verrez. Tel est le message que Dieu veut faire passer à son peuple. Et nous, aujourd'hui, que tirer de ce texte? À première vue, nous sommes bien loin de ces Israélites, découragés et un peu perdus dans Jérusalem en cours de reconstruction. La loi sur la dîme qu'ils doivent suivre ne nous concerne pas. Sauvés par Jésus-Christ, il ne nous est plus demandé de suivre la loi de l'Ancien Testament. Personnellement, je vois un point commun entre eux et nous. Comme eux, qui viennent de rentrer d'exil, nous avons été en Jésus libérés du péché. Comme eux, qui essayent de reconstruire une ville ou de vivre avec Dieu, nous essayons, nous aussi, de vivre cette vie nouvelle en Jésus. Et pour nous, comme pour eux, ce n'est pas toujours facile. Nous avons chanté des beaux chants ce matin, et nous nous engageons. Mais tous les jours, est-ce aussi facile? Alors, laissons-nous stimuler et encouragé par cette interpellation de Dieu. Dieu ne nous demande plus d'accomplir la loi dans le moindre détail de ses règles, mais de placer notre confiance en Jésus-Christ. Mais lui faisons-nous réellement et pleinement confiance, y compris dans les aspects très matériels de notre vie. Peut-être sommes-nous comme les contemporains de Malachie. Nous ne nous rendons pas compte de la distance qui s'installe entre nous et Dieu. Peut-être n'avons-nous pas conscience lorsque nous nous éloignons doucement et reprenons petit à petit ce que nous avions voulu donner à Dieu. Comme eux, peut-être nous nous demandons, un homme peut-il voler Dieu? Et pourtant, Si nous ne nous donnons pas complètement à Dieu, nous ne lui donnons pas ce qui est dû. Peut-être nous posons-nous l'autre question. Comment devons-nous revenir? Eh bien, en mettant notre confiance entièrement en lui. Et si nous voulons être entièrement à lui, cela passera certainement par cet aspect très matériel qu'est l'argent. En effet, qui dira que l'argent n'a pas une très grande importance dans notre monde? Nous ne pouvons pas dire être à lui sans lui soumettre aussi cet aspect-là de notre vie. Nous l'avons dit, nous ne sommes plus concernés par la dîme obligatoire. Nous n'avons plus de temple à faire fonctionner. Nous n'avons pas de prêtre intermédiaire entre nous et Dieu à faire vivre. Nous accédons directement à Dieu et les personnes que nous sommes forment toutes ensemble le temple de Dieu. C'est avantageux, c'est économique. Mais souvenons-nous que Jésus nous a sauvés pour être ensemble. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus. Comment vivre cet amour sans être ensemble? Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres, dit Jean, sur le même thème. Et être ensemble, eh bien, cela implique faire des choses ensemble, avoir des projets ensemble, prendre soin les uns des autres. Et mettre en commun une partie au moins de nos ressources est plus qu'utile pour mener tout ceci à bien. C'est ce qu'ont fait naturellement les premiers chrétiens. Dans le livre des Actes, nous lisons « Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. » Nous avons des projets ensemble. Nous souhaitons avoir un bâtiment pour nous réunir. Nous avons celui-ci qui nous a permis de vivre de très belles choses. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'autre chose pour pouvoir nous permettre de continuer à grandir ou alors pour essaimer. Nous souhaitons aussi avoir un pasteur. Nous n'avons pas besoin d'un prêtre qui servirait d'intermédiaire entre nous et Dieu. Mais nous reconnaissons que nous avons besoin de quelqu'un de disponible pour servir notre Église, avec les dons nécessaires pour enseigner, pour accompagner, pour prendre soin de ceux qui en ont besoin. Si nous voulons cette disponibilité, nous devons le rendre disponible. Nous voulons vivre également la solidarité entre nous. Nous voulons avoir une solidarité immédiate, que ceux qui parmi nous qui sont dans le besoin puissent ne manquer de rien. Mais nous voulons également une solidarité moins directe, lorsque, ensemble, nous voulons nous occuper des enfants, offrir aux jeunes des moments de détente, financer des formations à ceux qui en ont besoin parmi nous, etc. Nous voulons aussi évangéliser, partager à côté de nous, ou plus loin, l'amour de Jésus-Christ, tel que nous le vivons. Pour tout ceci, si nous n'avons pas de dîme obligatoire à suivre, nous sommes encouragés à donner des offrandes volontaires. Paul nous dit que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ces dons financiers sont à la fois l'occasion de remercier Dieu et d'affirmer notre confiance. Nous remercions Dieu parce que nous reconnaissons que tout nous vient de lui. Il est le créateur de toutes choses, de tous et de chacun d'entre nous. C'est lui qui nous a donné ses capacités qui nous permettent de travailler, la force, l'intelligence, le dynamisme, que sais-je encore. Il nous protège du chômage, de la maladie, d'une catastrophe climatique. Tout ce auquel nous nous habituons, mais qui n'arrive pas qu'aux autres, et qui peut survenir sans prévenir. Quelque part, quand on remonte à la source, on se rend compte que tout ce que nous avons, c'est de lui que nous l'avons reçu. Et par nos dons, nous montrons également notre confiance en lui. En donnant une partie de ce que nous avons, nous affirmons et nous vivons la confiance que nous mettons en Dieu. Confiance que ce que nous lui donnons, à travers cette offrande, ne nous manquera pas, car nous croyons qu'il nous garde jour après jour. Le don financier est quelque chose d'intime entre chacun d'entre nous et Dieu. Contrairement à certains engagements qui sont visibles, tels que la présence régulière au culte, la participation dans tel ou tel service, la prise de parole, le don financier est beaucoup plus discret entre nous et Dieu. Peut-être vous posez-vous la question, comment donner? Combien? Quand? C'est une question que l'on peut se poser, en effet. C'est une question que nous abordons peu dans nos églises. Aussi, permettez-moi de vous proposer quelques pistes pratiques. Et si vous y trouvez une utilité, bien tant mieux. Je suggère de choisir un montant et de s'y tenir en donnant régulièrement. C'est là une façon de montrer sa confiance que de donner régulièrement la même somme et non pas après coup ce qu'il reste. Si vous vous posez la question de combien donner, je vous suggère de considérer un dixième de revenu, comme cette dîme commandée dans l'Ancien Testament. Mais il n'y a pas d'obligation à suivre. Et parfois, sur un revenu faible, un dixième, c'est beaucoup. Alors que sur un revenu plus confortable, un peu plus, c'est possible. Réfléchissez et remettez ceci devant Dieu dans la prière afin de pouvoir, comme on nous y invite, donner sans regret ni contrainte. Et lorsque le Seigneur, à travers telle ou telle circonstance, se montre généreux, n'hésitons pas à faire preuve, nous aussi, de générosité dans nos remerciements à travers l'offrande. Voilà quelques idées concrètes que je soumets à votre réflexion. Mais comme pour les contemporains de Malachie, l'appel à donner, c'est aussi un appel à nous ouvrir à la bénédiction. Apportez-moi vos offrandes. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez bien, semble nous dire le prophète. Ça pose la question. Un chrétien peut-il être pauvre? Je crois que oui. En tout cas, les faits sont là. Quand on lit les lettres de nouvelles de la mission ou quand on regarde les difficultés de certains frères et sœurs plus proches, indéniablement, un chrétien peut connaître la pauvreté. Mais un chrétien peut-il manquer du nécessaire? Je crois que non. Tout d'abord, je crois que non parce que la Bible nous affirme que nous ne manquerons de rien. Le texte de Malachie, par exemple, que nous avons lu, nous le dit. Mais Jésus aussi nous l'assure. Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? À ces promesses bibliques viennent s'ajouter les témoignages de générations de chrétiens qui ont pu expérimenter le soutien, banal ou spectaculaire, de Dieu dans leur vie matérielle. Moi-même, je veux témoigner que, même si je me suis posé la question au moment de donner mon offrande, question de « est-ce bien raisonnable ?», jamais je n'ai manqué de quoi que ce soit. Cet encouragement, c'est un encouragement à marcher par la foi. Un encouragement individuel, en premier lieu, à donner avec générosité. C'est aussi un engagement collectif. Encouragement à utiliser en Église, tous ensemble, l'argent que nous mettons en commun. Déménagement, implantation d'église, formation, mission, les projets ne manquent pas. Nous ne sommes pas appelés en Église à économiser, à nous constituer un capital pour pouvoir un jour peut-être acheter comptant en toute tranquillité. Dieu aime et souhaite que nous dépendions de lui et que nous ne nous reposions pas sur nos propres forces, fussent-elles financières. sans abandonner les plans construits avec sagesse, sans oublier de prendre le temps de la réflexion. Mettons-le à l'épreuve, comme il nous y invite. Alors allons-y, et nous verrons ce qu'il nous réserve. Vivons notre confiance en Dieu aussi bien individuellement que collectivement. Rassurés par ce que nous donnons individuellement avec générosité, ayons confiance collectivement en nos projets d'avenir. Et réciproquement, parce que notre communauté avance ensemble, soyons confiants individuellement, sachant que le soutien de nos frères et sœurs sera là lorsque nous en aurons besoin. Et souvenons-nous que Dieu nous bénit bien plus que ce que nous donnons. Au moment de conclure, que retenir du message de ce petit prophète qui traverse les siècles pour nous parler de la part de Dieu? Entendons l'invitation qu'il nous fait et venons goûter à la fidélité de Dieu, à sa générosité. Ce Dieu qui pratique un donnant-donnant si particulier, c'est lui qui donne d'abord. Et quand on répond, il nous donne encore bien plus, au-delà de ce que nous espérons. Alors que nous étions perdus, il est venu nous chercher. Et depuis, il nous conduit. En réponse, donnons-nous à lui, y compris dans les aspects les plus concrets de notre vie, tels que l'argent. Mettons-le à l'épreuve, comme il nous y encourage, et nous verrons s'il ne nous comble pas. Prenons le risque de le voir ouvrir pour nous ses écluses, jusque dans les aspects concrets de notre vie. Amen.